Le podcast Séparation consciente, c'est un magnifique espace où on discute à cœur ouvert de tout ce qui a trait à la séparation familiale, à la coparentalité et à votre nouvelle vie de famille, de l'aspect légal à l'aspect émotionnel.
Notre intention avec le podcast, c'est de transformer le visage de la séparation familiale. Une conversation à la fois pour que plus de gens, petits et grands, soient impactés de façon favorable par ce grand changement.
On est deux collègues et amis qui ont décidé d'unir leur vision et leur expertise pour les mettre au service de cette transformation.
Parce qu'on est convaincus que ça peut se faire dans le respect des valeurs de chacun, dans l'indulgence et dans la bienveillance.
Mon nom est Caroline Prudhomme, je suis coach en relations conscientes. Mon intention est de vous aider à naviguer la dimension émotionnelle de la séparation qui est trop souvent mise de côté.
Et je suis Mylène Mas, avocate, médiatrice et coach en développement intégral. Mon intention est de remettre l'humain au centre du processus de séparation. À travers des discussions et des partages, on souhaite vous offrir des pistes de réflexion, des outils aussi, pour vous accompagner sur le chemin parfois tumultueux de la séparation familiale.
Parce que ce qui laisse des traces, c'est pas la séparation en soi, mais la façon dont nous, les adultes, on la gère. Et que ce dont nos enfants ont le plus besoin, c'est pas d'une famille théoriquement parfaite, mais de deux parents heureux et épanouis. Bienvenue dans notre monde, où la séparation n'est pas une fin en soi, mais plutôt une puissante opportunité d'évolution personnelle. Êtes-vous prêt à la saisir? Bienvenue sur Séparation consciente. On est contente de vous retrouver cette semaine. On a décidé, Mylène et moi, d'aborder le sujet de la communication non-violente cette semaine pour vous supporter ou vous outiller dans les conversations entre coparents, en fait, pour que ça se fasse le plus harmonieusement possible. Je pense que c'est un super bel outil. Fait que je vais laisser Mylène commencer la discussion sur le sujet.
Oui, allô. Dans le fond, je nuance aussi ce que tu veux dire parce qu'on peut l'utiliser, cet outil-là, dans toutes nos relations.
Oui, oui, bien sûr.
Je comprends, oui, bien sûr, le focus sur la coparentalité, mais en même temps, là, c'est vraiment un outil qui est d'une certaine simplicité, puis qui, vraiment, le nom le dit, hein, ça nous amène à réaliser à quel point, parfois, même quand on se parle personnellement, là, on peut être violent, tu sais, puis ça vient à nous faire réaliser qu'on l'est de façon générale dans nos paroles, dans nos pensées.
Sans le réaliser, sans s'en rendre compte, parce que c'est tellement culturellement accepté. C'est comme dans l'inconscient culturel de notre société, en fait, j'ai l'impression,
oui.
Depuis toujours, et donc dans notre inconscient individuel aussi, là, tu sais, qu'on ne s'en rend pas compte à moins de le mettre en lumière pour nous-mêmes, là, tu sais, ou de s'y attendre,
oui.
Ou de se questionner. Là,
ouais. Cette façon de faire-là, ça a été développé par Marshall Rosenberg. Je le mentionne, c'est important, je pense, de mentionner le créateur du processus de communication non-violente, un psychologue qui était, entre autres, inspiré de Gandhi, parce que Gandhi disait qu'il y a violence quand les choses s'opposent. Fait que dans le fond, pourquoi non-violence, c'est pas mal de là que ça vient, là, de ce que disait Marshall Rosenberg.
Pour sortir de la confrontation, dans le fond, si je comprends.
Oui, oui, c'est ça.
En dialogue, mais, puis en échange.
Mais on entend souvent maintenant parler de communication consciente ou de communication axée sur les besoins. Et c'est pas mal le modèle de la communication non-violente. Là, juste pour les besoins de notre discussion, je vais continuer de l'appeler CNV, là, communication non-violente, mais on l'entend de plusieurs façons. Là. C'est un modèle qui dépasse vraiment la compréhension classique du comportement puis de la psychologie humaine, là, tu sais, qu'on connaissait. Je dis ça parce que pendant bon nombre d'années, on s'appuyait sur notre fameux René Descartes là, qui disait « je pense, donc je suis ». Puis cette pensée-là ou cette façon, puis ça a été très utile là, à ce moment-là. Là, je ne remets pas ça en question du tout, puis on ne va pas s'accrocher là-dessus là, dans notre discussion. Mais juste pour expliquer un peu le fait que pendant des centaines d'années, notre pensée était très axée sur le fait que la pensée est reliée à l'être. Là, donc on est notre cerveau. Là.
Oui, puis on est nos pensées. Ça, tu sais, dans le fond.
Alors que dans le fond.
Plus loin de la vérité, là, mais.
Mais tu as tellement raison, tu sais, de vraiment dissocier le fait qu'on n'est pas nécessairement nos pensées, justement. Et puis, c'est important de faire cette distinction-là. Et puis ça, bien, cette distinction-là, on la voit de plus en plus, on l'entend de plus en plus, là, on se le fait répéter. Puis, je vais t'amener vers quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, la théorie polyvagale.
Ouh, oui.
Parce que dans le fond, puis c'est toi la savante là-dedans, là. Moi, je vais juste comme l'exprimer.
Pas pour le moment, là, mais je suis très curieuse de cette théorie-là. Puis
Mais je pense que tu l'assimiles quand même bien, tu la comprends bien. Puis tu sais, je l'effleure seulement, là, tu sais, t'ajouteras si tu veux. Mais dans le fond, c'est juste parce que je veux décrire qu'on a... On est en train de sortir de cette pensée où notre cerveau puis nos pensées sont qui on est, alors que dans le fond, la théorie polyvagale vient de Stephen Porges, un neuroscientifique, elle vient plutôt mettre en évidence que notre système nerveux autonome est pas mal maître de nous, tu sais. Donc, on vient mettre nos réactions physiologiques dans notre façon de procéder, tu sais. On est câblé, en fait, l'être humain, puis c'est ce qu'il a démontré par sa théorie, qu'on est très capable, l'être humain, de faire la part entre le danger et la sécurité. T'sais, on est câblé pour ça. Donc, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est un danger pour nous? Bien, on le ressent dans le corps, tu sais. La peur, l'émotion, tout ça. Puis la sécurité, bien, le calme que ça va nous faire sentir. Donc, d'amener ça...
En fait, du cerveau, des émotions, puis du corps ensemble. Tu sais, le fait qu'on est un être holistique, genre de prendre la personne dans son ensemble plutôt que de la prendre dans des petites boîte de
oui, des compartiments.
En fait, ouais, c'est ça.
Oui, oui. Ben, puis dans le fond, ça vient démontrer que l'humain, ou en fait, ça fait vraiment partie de la théorie de Stephen Porges, c'est-à-dire que l'humain, il a naturellement une propension à se connecter à l'autre personne, à rechercher ce sentiment de sécurité-là, là, tu sais, à se lier aux autres. Puis, c'est, bon, là, je sors le seul terme neuroscientifique que j'associe à, bien, qui est associé à cette théorie-là, là, tu sais, c'est le nerf vagal ventral qui rend ça possible, cette connexion-là, tu sais, ce lien-là.
Mm-hmm.
J'irai pas vraiment plus loin parce que je veux pas vous perdre, puis me perdre personnellement dans cette belle théorie, là,
mais en fait, c'est quelque chose d'espace-là de ventral, c'est qu'on est dans un état où on est bien puis qu'on est en sécurité. On se sent en sécurité. Donc, quand on se sent en sécurité, on est capable d'entrer en connexion avec l'autre. Versus si on se sent menacé, quand on est en parasympathique ou en dorsale, là, on va se sentir menacé puis on n'est pas capable d'entrer en connexion avec l'autre. On va directement essayer de se défendre. Et là où ça devient vraiment intéressant, selon moi, avec la communication non violente, c'est que tout dépendant comment la personne va s'adresser à nous, les mots qu'elle va employer, le ton qu'elle va employer, ça va déclencher soit notre parasympathique ou notre ventral. Donc, on va soit se sentir en confiance, en sécurité et capable de connecter et d'échanger, ou on va se sentir directement menacée, puis là, on va se dire « Wow, genre, elle a une épée, genre, elle a sorti une épée, moi aussi, je vais en sortir une, comme on s'en va à guerre, là. » OK, parfait. Tout ça, c'est inconscient, là, mais ça, c'est la réaction. Notre système nerveux se sent attaqué directement par les mots, le ton, le non-verbal de l'autre. Fait que c'est là où ça devient dangereux, dangereux, en guillemets, là, mais où on devient moins apte à communiquer ouvertement avec l'autre, en fait, puis à entendre ce qu'il nous dit aussi, parce que là, on est en mode protection, tu sais, en fait.
C'est ce que j'allais dire, on va se protéger dans des situations comme celle-là. Donc, en partant de ces principes-là, bien, dans le fond, de réguler son système nerveux, n'est-ce pas comme une bonne nouvelle?
C'est vraiment une bonne nouvelle. Puis qu'est-ce que Stephen Porges a aussi amené? C'est que la co-régulation a un très grand impact sur notre système nerveux. Donc, si moi, mon système nerveux est régulé, toi, tu vas pouvoir venir te co-réguler sur le mien. Mais en même temps, si moi, je suis désorganisée et je ne suis pas régulée, ben ça va venir désorganiser ton système nerveux à toi aussi.
Oui.
Puis là, ça va faire que les deux, on va entrer dans cet état-là de menace.
De dérèglement.
C'est ça.
Ben, dans le fond, c'est là où j'amène la communication non-violente qui peut nous permettre de venir s'auto-réguler.
Oui.
Et donc, réguler l'autre. La
régulation avec l'autre, oui, c'est ça, exactement.
C'est ça. Puis, dans le fond, la proposition de la communication non-violente, c'est vraiment comme la connexion, tu sais, de venir connecter avec l'autre, de justement comme peser, en fait, le lien qu'on veut entretenir avec l'autre personne. Mm-hmm. Tu sais, est-ce qu'on veut prioriser la qualité de la connexion? Ou bien, on veut plus ou moins le faire, fait que on va peut-être porter un peu moins attention à cette relation-là. Mais dans le fond, ça m'amène à expliquer les trois mouvements de la avant d'entrer dans la technique là, de la communication non-violente. Mais les trois mouvements de la CNV, c'est notamment, premièrement, l'auto-empathie, hein? Prendre soin de soi. D'être indulgent envers nous-mêmes, de ne pas être dans la critique, de ne pas être violent envers nous-mêmes. T'sais. Dans le fond, ça vient dans la façon de se parler, de prendre un moment pour être curieux avec nous. Comment je me sens? T'sais. Puis là, ça semble... Je ne veux pas infantiliser l'affaire là, ou le processus, mais je veux adoucir.
Ce qu'il faut, bien, adoucir, oui, mais je pense que c'est tellement ancré à l'intérieur de nous que c'est pas comme ça, de façon automatique,
oui,
qu'on le fait, que je pense qu'au départ, on n'a pas le choix de, pas nécessairement infantiliser, mais de se prendre par la main, tu sais.
Oui,
pour aller développer cette curiosité-là envers nous-mêmes, à l'intérieur de nous, peu importe le processus d'introspection qu'on entreprend, tu sais, mais là, à travers la communication non violente. Puis c'est vrai, c'est que on le remet pas en question, tu sais, c'est tellement violent souvent les propos qu'on se tient en soi-même.
Ah, ouais.
On remet pas ça en question, tu sais, on va souvent aller de l'extérieur vers l'intérieur à la place,
mm-hmm,
aller questionner comment on parle à l'autre, puis tout ça quand dans le fond si on vient se questionner nous en premier, puis qu'on se rend compte à quel point c'est violent la communication qu'on a avec nous-mêmes, ou genre en modifiant ça, on va être capable bien plus facilement de modifier son projet par l'intérieur.
Je veux te donner un exemple, justement, pour l'illustrer, puis, tu sais, c'est sournois, puis, tu sais, on s'entend, on n'est pas tout le temps en train de se taper dessus, puis d'être ultra-violent, mais la violence, comment elle s'exprime, tu sais, c'est, admettons, un lundi matin, on file pas, puis, tu sais, tu le sais que tu as la semaine complète, là, à avoir à travailler, puis, tu sais, on a souvent cette tendance d'être dans la violence, de dire « Ah ouais, lève-toi, là, puis tu sais, fonce, puis t'es capable, puis tu vas prendre... » Mais c'est de ne pas s'entendre, tu sais, c'est de ne pas vraiment
s'écouter.
Alors, c'est ça. T'sais, on pourrait avoir une autre façon de raisonner ou de se parler, de s'accepter, d'être plus curieux, puis de venir explorer nos ressentis puis les besoins non comblés aussi qui y sont associés, en peut-être se disant « Ouf, hey, moi, je suis fatiguée, moi, lundi matin, là, comme ça, la fin de semaine, ça ne m'a pas reposé pantoute. » J'aurais besoin finalement de repos puis d'être dans un environnement non stressant aujourd'hui. T'sais. Fait que la frénésie du bureau du vendredi matin, là, bon, on le vit pas mal moins depuis les deux dernières années, mais ça revient, ou pour certains c'est encore le cas. Ben, peut-être qu'on peut s'accepter là-dedans puis se donner cette pause-là, ou le voir d'une façon différente.
Oui, c'est ça.
Ça peut s'installer donc dans le couple aussi, tu sais, ou dans la coparentalité aussi. Tu sais, je donne l'exemple aussi dans cette auto-empathie-là, de dire, hey, tu sais, admettons que tu le sais qu'il faut que tu aies une discussion difficile avec l'autre parent, bien, de le voir, de l'accepter, puis de dire, hey, j'appréhende vraiment cette discussion-là parce que ça tourne tout le temps en conflit.
Mm-hmm.
Tu sais, qu'est-ce que je peux faire ou comment est-ce que je peux rechercher l'harmonie, tu sais, ou puisque c'est un besoin là pour moi dans ma vie constante.
Mm-hmm. Ouais. Il y a un exemple qui me vient par rapport à la violence aussi dans nos propos envers nous-mêmes, c'est quelque chose qui est vraiment anodin là, mais quand on fait quelque chose comme on voit en le faisant qu'on aurait pu le faire différemment ou quelque chose comme ça, on se dit ah voyons, je suis bien niaiseuse, j'aurais dû faire ça.
Oui.
Je suis bien niaiseuse.
Ah mon Dieu.
Et on dit non, mais c'est tellement inconscient, puis c'était là que genre, mais c'est violent, là, de se dire, je suis niaiseuse. Mais non, je suis pas niaiseuse, j'ai juste fait une erreur, ou même pas une erreur, là, tu sais, j'ai juste peut-être pas pris la bonne décision à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
De façon différente, puis ça aurait été plus efficace, tu sais. C'est tout.
Oui.
C'est tout.
Oui. Ben, puis pour faire du pouce là-dessus, parce que je l'entends tellement souvent, puis même ma mère aussi, là, tu sais, elle pèle les carottes de l'autre sens, puis là, je suis bien épaisse. Ben, voyons donc, mais quelle violence, tu sais.
Oui.
Mais tout ça pour dire que, non, c'est pas une erreur, ou tu sais, ça se peut, là, qu'on fasse quelque chose.
Mais c'est pas grave, tu sais, comme l'exemple.
Mais c'est pas grave.
C'est un bon exemple, tu sais, parce que, voyons, ça vaut-tu toute la violence que je viens juste de m'envoyer en me traitant d'épaisse, le fait que j'ai pris la bonne technique de pelage de carottes?
C'est intense. Et donc, ça vient dire, on a appris comme ça.
Oui.
Puis là, je donne l'exemple de ma mère, c'est pas que ma mère a voulu nécessairement... me faire apprendre de cette façon-là. Là.
Non, mais
elle a appris comme ça, puis les femmes, puis c'est sa famille et tout ça, tu sais, c'est comme ça qu'on a appris, tu sais, puis c'est... On a appris à être dans cette opposition-là, gratuite, facile. Tu sais. Le deuxième mouvement de la CNV, parce que le premier, c'est l'auto-empathie, bien, le deuxième mouvement, c'est l'écoute empathique vers l'autre personne, tu sais, de créer cette connexion-là, pas juste pour soi, mais avec l'autre. C'est beaucoup plus doux, puis c'est, dans le fond, être curieux et non pas dans le jugement. Parce que de toute façon, dès qu'on juge l'autre, bien, on se juge aussi par comparaison, tu sais, souvent.
C'est souvent ce qu'on va juger dans l'autre, c'est quelque chose qu'on trouve jugeable chez nous.
Oui, c'est sûr.
C'était pas quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi avec lequel je suis pas d'accord, qui est encore dans mes parts d'ombre, qui n'est pas accepté, ben je le remarquerais sûrement même pas chez l'autre, ou ça me dérangerait pas. T'sais.
Non.
Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi qu'est-ce que tu dis, là, qu'est-ce qui me vient par rapport à qu'est-ce que tu dis, c'est l'écoute empathique, mais le niveau d'écoute qui vient avec ça, tu sais, d'écouter pour vrai. Pas d'écouter pour répondre, d'écouter pour vrai, tu sais, fait que ça, puis d'ajouter la compassion là-dedans, tu sais, qui vient avec l'empathie beaucoup pour moi, mais tu sais, d'être capable de comprendre d'où vient l'autre, tu sais, même s'il y a une réaction que j'aime pas, ou même si ça se déroule pas exactement comme j'aurais voulu, ou peu importe, mais tu sais, quand même de comprendre sans accepter les réactions nécessairement qui sont peut-être pas adéquates ou peu importe, mais de pouvoir s'ouvrir à cette compassion-là, de dire genre, OK, je tolère peut-être pas le comportement présentement, mais je peux comprendre d'où il vient, tu sais. Je peux comprendre d'où il vient, je peux comprendre qu'est-ce qui l'a fait réagir ou qu'est-ce qui le fait réagir de cette façon-là, tu sais.
Ouais.
De développer la compassion, mais l'écoute profonde aussi, pas de l'écoute pour répondre, mais de l'écoute...
C'est ça, parce que dans le fond, pour ajouter à ce que tu dis, tu sais, combien de fois ça peut nous être arrivé où tu rencontres... ton conjoint, ta conjointe le soir même ou des amis ou de la famille, puis ils posent la question, ils prennent le temps de te poser la question, puis comment tu vas de ce temps-là? Là, tu dis, oh mon Dieu, tellement une grosse journée épouvantable, puis là, la réponse que tu as de cette personne, c'est de dire, oh, parle-moi-en pas, moi aussi. Puis là, ils partent sur leur histoire. Finalement, t'ont-ils vraiment écouté?
Oui, ou tu sais, même quand t'es en train, disons que tu me parles, puis je pense à qu'est-ce que je vais te répondre après,
oui.
Je suis pas en train de t'écouter, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais répondre. Fait que dans le fond, j'entends pas vraiment qu'est-ce que tu me dis. J'écoute, mais j'entends pas, tu sais. Il y a des choses entre l'écoute puis l'entendre, tu sais.
Oui, puis c'est des exemples de choses, tu sais, où on prend plus un exemple à la négative, là, tu sais, de choses à ne pas faire, mais... Dans le fond, chose à faire pour être plus dans l'écoute empathique, bien, c'est justement comme d'être vraiment en présence, d'être dans le dialogue, tu sais, pas vouloir convaincre ou de vouloir influencer l'autre personne dans qu'est-ce que tu vas répondre, comme tu dis, là, tu sais, déjà, des fois, on entend l'autre penser, là, qui est en train de penser à qu'est-ce qu'il va nous répondre, mais de plutôt aller vers... d'essayer de voir le besoin derrière ce que la personne exprime, tu sais, nous exprime. Puis ça peut sembler juste une question. Là, je remets ça un peu dans le contexte de d'une séparation consciente ou de coparentalité. La personne est fâchée de ce qu'on vient de dire, puis on reçoit ça. Tu sais, ça serait facile d'être sur la défensive, comme tu disais au tout début. Tu sais, on réplique en attaquant, là, tu sais, quand on se fait attaquer. Mais dans l'empathie, dans l'écoute empathique, bien, c'est là où on peut être plus dans le questionnement, la curiosité, en disant, bien là, j'ai l'impression que ça ne te plaît pas en tout ce que je viens de te dire, là. Tu sais, où est-ce qu'on va, tu sais, est-ce que tu veux qu'on s'en parle davantage, tu sais, où est-ce que tu penses qu'on peut se rejoindre là-dedans? Tu sais, c'est beaucoup moins violent que de juste dire, bien, tu ne me comprends jamais, tu sais, puis on sait bien, toi, avec tes idées, puis...
Oui, puis de dépasser les mots, en fait, pour aller entendre le besoin non satisfait à l'arrière. C'est souvent ça, parce que c'est rarement, tu sais, puis ça, c'est une conversation qu'on a souvent eue, toi puis moi, là, tu sais, mais c'est rarement parce que la personne, elle tient mordicus à avoir les enfants le jour de Pâques, tu sais, qu'elle est en train de se fâcher. Mais c'est souvent parce que, en fait, elle, ça vient répondre à son besoin d'être reconnue ou son, le fait de que ce soit égal, son besoin de justice aussi ou de
d'égalité
ou le besoin de sécurité, en fait, quand ça vient avec la maison ou le lieu de vie ou la pension alimentaire ou des affaires comme ça. Fait qu'il y a toujours un besoin sous-jacent au discours qui est tenu. C'est rarement qu'est-ce qui est dit en surface qui est la vraie problématique. Tu sais, en fait, être capable, je pense, en écoute empathique, c'est d'être capable d'aller voir au-delà des mots qu'est-ce qui essaie vraiment d'être communiqué, tu sais.
Oui, oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs l'appellent la communication axée sur les besoins, parce qu'on va le voir, là.
Oui, t'avais dit ça au début, tu vois.
Comment?
J'avais oublié que t'avais dit ça au début, tu vois, on a refait le lien, sans même le
voir. Oui, mais c'est bien, mais puis il faut l'amener, là. Je vais juste mentionner le troisième mouvement rapidement de la CNV, qui est l'expression authentique. Puis ça, on l'entend souvent. Mais c'est important, puis c'est le fun de se le faire rappeler, c'est d'arriver dans une discussion, dans la connexion avec l'autre personne, avec tous ses morceaux. Tu sais? Dans l'authenticité, ça veut dire comme autant dans sa vulnérabilité que dans sa force. Tu sais? Mm-hmm. Autant dans tu sais, toutes les parties de soi, là, tu sais, ça peut être la partie de moi qui veut me protéger, mais en même temps aussi la partie de moi qui veut avoir cette connexion-là. Là. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Je pense que oui, puis quand tu dis d'entrer en connexion avec l'autre dans notre authenticité, c'est que je pense que l'authenticité, on comprend c'est quoi intellectuellement comme concept, mais que c'est de l'intégrer qui devient plus difficile. Mais tu sais, d'entrer en connexion avec l'autre en toute authenticité, pour moi, c'est d'entrer dans cette connexion-là en étant moi-même connectée puis ancrée à l'intérieur de moi.
Bien, tu le dis très bien, parce que c'est justement, moi j'allais dire, c'est assumer avec responsabilité qui on est. T'sais? Donc, assumer nos émotions, assumer ce qu'on veut, assumer ce qu'on dit. T'sais, assumer nos paroles, nos gestes et avec la responsabilité qui vient avec. T'sais. Fait que dans ce contexte-là, t'sais, on pourrait vouloir mentionner à l'autre coparent, t'sais, ton bien-être, l'harmonie dans notre relation est primordiale pour moi, mettons. Ben, qu'est-ce que tu dirais de se rencontrer à chaque mois pour pouvoir discuter de tel élément par rapport aux enfants? T'sais? Comme ça, dans le fond, ça pourrait, tu sais, je pourrais, moi, faire état de ce que je pense, puis toi aussi, tu sais, ça nous donnerait cet espace-là. Qu'est-ce que t'en dis? Mm-hmm. Tu sais, est-ce que ça serait possible?
Oui, puis je pense que ça dépend de la nature de la relation aussi entre les deux personnes. Ouais. Parce que ça peut être fait dans le quotidien, ça peut être fait une fois par mois, comme tu dis, ça peut être fait par communication écrite, si c'est trop difficile, la communication verbale. Tu sais, dans le sens qu'il y a plein de façons dont ça peut prendre forme, ça, de se réserver cet espace-là ensemble aussi, puis de se dire, genre, on va rentrer dans cette conversation-là en tant que coparent, je laisse de côté, genre, l'acrimonie que j'ai pu avoir pour toi dans le passé, les besoins non répondus d'amoureux ou d'amoureuse, tout ça, genre, là, c'est pas de ça dont il est question, je m'en viens dans cet espace-là en étant pleinement le parent que j'ai envie d'être pour mes enfants. Oui. Genre, puis c'est de cet espace-là que je veux discuter avec toi, puis j'aimerais ça que toi aussi ce soit, tu sais, comme moi, c'est ça que j'amène dans l'espace. Est-ce que toi, tu te sens prête à amener la même chose dans cet espace-là, tu sais? Mm. De toujours remettre le pouvoir dans les mains de l'autre, parce que dans le fond, moi, je le sais pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle? Genre, je peux pas prendre la décision pour lui ou elle, je peux juste prendre la décision pour moi. Puis je peux justement être authentique, puis la nommer, puis être vulnérable. Ouais. Et après ça, souvent, qu'est-ce qu'on va recevoir? C'est l'équivalent. Ouais. Mais
très intéressant ce que tu... Ouais. Intéressant ce que tu dis, parce que la proposition de la CNV, c'est d'être en pouvoir avec l'autre et non pas avoir le pouvoir sur l'autre ou avoir le pouvoir, être en sous-pouvoir, là, tu dis que ce soit sous nous, là.
Ouais.
Donc, être en pouvoir avec l'autre personne.
Oui, je ne sais pas si ça fait partie des concepts ou des piliers de la communication non-violente, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai observé, moi, autant dans ma pratique que dans ma vie personnelle et activement dans ma vie personnelle, c'est avec le père de mes filles, de sortir de qu'est-ce que j'avais tendance à faire quand on était en couple, en disant, genre, tu devrais faire ça de même, tu devrais nanana, en disant, non, genre, à la place, je vais rentrer dans cet espace-là, puis en disant, j'ai confiance que tu es capable de le faire, je sais que tu es capable de le faire, je te fais confiance, tu sais.
Oui. Mais ça, c'est très bienveillant.
Oui, puis je lui redonne son pouvoir. Je lui dis pas, je sais mieux que toi comment tu devrais faire les choses. Oui. Je lui redonne son pouvoir, puis je lui dis, je lui mets dans ses mains, mais en plus, avec toute ma confiance. J'ai confiance en lui, qui est capable, qui est adéquat, tu sais.
Bien, puis là, je peux faire un rapprochement avec la communication non violente où c'est important de faire la part des choses entre les faits. Puis les émotions que ça peut générer. Hein? Puis, tu sais, tu l'as mentionné un peu aussi tout à l'heure, où les émotions sont un indicateur de la satisfaction des besoins ou pas. Mm-hmm. T'sais? Mais c'est... Puis ce que tu as dit tantôt, c'est d'éviter d'imposer ou de mettre sur l'autre la responsabilité de l'émotion, tu sais, hein, c'est à cause de l'autre, là, tu sais, c'est où je me sens comme ça à cause... Donc, ton émotion, c'est un indicateur de ton besoin qui est non comblé.
Ça vient souvent, en plus, en tout cas, je dis souvent, mais genre, selon mon expérience à moi, 99 % du temps, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre puis avec qu'est-ce qu'il a dit, comment je me sens.
C'est ça.
C'est qu'est-ce que moi, je me suis dit que ça voulait dire par rapport à moi. Le discours que l'autre personne a eu, qui me crée cette émotion-là de me sentir inadéquate, de me sentir fâchée, de me sentir peu importe là, l'émotion négative, entre guillemets, que je ressens, ou positive, mais ça a tout rapport avec le discours interne que j'ai par rapport à ce que l'autre personne m'a offert comme perception. T'sais, ça c'est pas l'émotion directement qui est déclenchée, c'est mon discours interne qui va déclencher une émotion à l'intérieur de moi.
Oui. Oui, puis dans le fond, on a appris à intriquer vraiment les faits, puis les émotions, puis les besoins, puis tout ça. Dans le fond, la CNV, c'est apprendre à les désintriquer un peu, hein? À dénouer un peu tout ça. En justement, comme en appliquant dans une situation X, puis je vais donner un exemple, c'est sûr que ça prend du temps à apprivoiser cette façon de faire-là, mais c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend, puis il s'agit d'en être conscient. Là, on allume la conscience, puis là, hop, on se retrouve devant une situation, puis là, on est capable de voir un petit peu plus à chaque fois les différences, là, tu sais, quels sont les faits, parce que ça repose sur ça, le modèle de la communication non-violente. Donc, dans le fond, d'abord, il y a les faits de la situation ou de ce dans quoi on se retrouve. Qu'est-ce que ça nous fait sentir? Donc, le sentiment, l'émotion qui jaillit de ça. Et quel est le besoin qui est non comblé ou qui est satisfait? Parce qu'on s'entend, l'émotion, ça peut être positif aussi. Là, on parle d'émotions négatives, là, généralement, pour illustrer, mais ça peut être positif aussi. Donc, quel besoin vient être comblé ou non? Et quelle action on va prendre par rapport à ça?
Ça me fait vraiment penser à une coach américaine que je suis qui s'appelle Brooke Castillo. Elle appelle ça le modèle, elle. Puis en fait, c'est un peu ça. Puis qu'est-ce qu'elle vient apporter comme nuance au niveau des faits, puis que je trouve qui est intéressant, c'est de dire, elle appelle ça une circonstance, là, mais peu importe, c'est la chose. Elle dit, c'est pas votre perception du fait qui doit être tenue en compte, c'est le fait en soi. Donc, il faut que tu sois capable de l'amener en cours, mettons. sais, genre...
Oui, oui, ben dans le fond, sans l'amener vers le principe légal. Là.
Non, mais c'est pas pour ça, mais c'est pour dire, genre, il faut que ce soit un fait qui est capable d'être démontré en cours, disons, oui. Donc hors toute perception, puis hors toute, tu sais, que ce soit de façon très objective, en fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment produit?
Ben dénué de jugement, oui. Dénué de l'interprétation, c'est ça. Donc, être juste dans l'observation. Puis je vais te donner un exemple. Puis je prends des noms hypothétiques, là, juste pour le bienfait de notre discussion. Mais tu sais, Louis arrive en retard à la maison encore un soir. Puis là, c'est moi qui ai ajouté encore un soir, parce que dans le fond, le fait, le simple fait, c'est quoi?
Il est en retard.
Il est en retard.
Ouais.
Mais Marie, elle répond à ça, ben, tu sais, t'es jamais là quand on a besoin de toi, hein?
Mm.
Ben, dans le fond, est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une émotion? Non, tu sais, c'est comme tout intriqué, là, tu sais, c'est sa frustration qui est là, c'est quel est son besoin qui n'est pas comblé là-dedans, là?
Elle ne se sent pas respectée là-dedans, en fait, tu sais, pour elle, c'est soit un manque de respect, ou elle ne se sent pas vue ou reconnue, ou c'est comme si elle
était pas importante. C'est ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'on fait souvent, tu sais, c'est ce genre de remarques comme ça qui arrivent dans les bureaux aussi, je veux dire dans le milieu professionnel aussi, là. Mais dans le fond, quand on mêle les faits puis les émotions, bien, on met l'autre dans son mode défensif. Tu sais.
Bien, on met l'autre dans son mode défensif, puis nous, on se positionne en victime aussi de ce comportement-là.
C'est ça. Donc, plus on est dans une charge émotive, bien, plus... On doit ressortir, tu sais, on doit sortir de ça puis aller identifier davantage les faits de façon objective, tu sais, sans rentrer dans l'interprétation ou dans le jugement. Parce que dans le fond, essentiellement, dans un contexte, tu sais, de réplique à la CNV, ça pourrait être, ben, tu sais, ça m'attriste quand tu es en retard parce que je sens que c'est comme si on ne me respecte pas dans la relation. Puis la proposition, dans le fond, tu sais, ou l'action qu'on peut prendre là-dedans, c'est de dire, ben qu'est-ce que t'en dis si on ne s'assoit pas, comme plus tard ce soir, pour établir vraiment un horaire un peu plus fixe, qui va être plus simple pour toi à respecter, puis qui, dans ça, moi, je vais sentir que tu es plus engagé et moi aussi, je vais m'engager là-dedans. Fait que ça va comme diminuer peut-être... bon, là, la demande semble très réfléchie et c'est sûr que quand on débute dans ce modèle-là, on est peut-être un peu plus maladroit, puis il y en a des vraiment experts pas mal plus que moi. Mais tout ça pour dire que c'est à peu près ça le modèle, c'est donc d'identifier les faits plutôt que de rentrer dans l'interprétation puis dans le « ah, oh, c'est contre moi qui a fait ça ».
Mais c'est ça, c'est en fait de reconnaître que, tu sais, en prenant ce pas de recul-là, je suis capable de reconnaître que le comportement de l'autre n'a rien à voir avec moi, en fait. T'sais, ça a rien à voir avec ma valeur d'être humain. Puis aussi, je trouvais ça intéressant quand elle dit « il est en retard encore une fois », puis quand elle lui répond « t'es jamais là ouais, ». On s'en va dans les c'est... absolus, ouais. Comme c'est impossible qu'il ait jamais été là, tu sais.
Ouais.
C'est comme, ben pas c'est impossible.
Mais on se parle comme ça.
Je sais, je le vois avec mes enfants, là, dernièrement, je suis comme « ah, vous ramassez jamais votre salle de jeu », mais c'est pas vrai, là, ouais. Ça arrive souvent qu'ils ont pas envie de ramasser, mais c'est pas jamais, parce que ça arrive qu'ils ramassent, tu sais.
Ouais.
De sortir des absolus comme ça, mais c'est vrai qu'on sait de façon automatique, tu sais.
Ouais. C'est rare, mais c'est un discours, c'est un discours de... victimisation. C'est un discours de victime aussi, là, puis tu sais, je comprends qu'à certains moments, c'est peut-être tout à fait vrai et ça peut être utilisé, mais tu sais, le jamais, tu sais, tout le temps, puis ces extrêmes-là, c'est très lourd à recevoir, tu sais.
Très lourd à recevoir.
C'est ça, comme tu dis, c'est jamais, pas vrai.
Mais puis il y a jamais de situation, là, ben, tu vois, là, j'utilise jamais, mais c'est jamais noir ou blanc, là. C'est toujours nuancé, c'est toujours dans les zones de gris, c'est gris pâle ou gris foncé, ça se peut, là. Mais je veux dire, c'est rarement, en tout cas très rarement, tout noir ou tout blanc.
Oui, ah oui, oui, c'est ça, exactement. Tu sais, tout peut être nuancé. Puis, je veux juste compléter là-dessus en disant, tu sais, ça peut être plein d'émotions qui sont suscitées aussi pour une situation. Tu sais, si on s'en tient à vouloir l'interpréter. Tu sais, je pense à une situation qui pourrait arriver où tu attends quelqu'un dans un café, il n'y arrive pas, c'est super long. Tu sais, dans le fond, tu peux tout de suite, comme dès qu'il est là ou quand il appelle puis il dit « Ah, mais finalement, je ne pourrais pas être là », ben tu pourrais tout de suite grimper dans le rideau puis être en colère parce que c'est ce qui, en principe, on est conditionné à faire. Mm-hmm. Mais en même temps, de juste prendre le temps de désintriquer ça et dire, ben là, OK, il est en retard, mais est-ce que c'est la fin du monde pour moi? Puis en fait, comment ça me fait sentir? Parce qu'en même temps, je pourrais me sentir tout à fait soulagée puis me dire, ah, oh, mais là, finalement, je vais pouvoir y aller à telle place. J'ai plus ça, tu sais, je redeviens maître de mon horaire. Parfait, tu sais. Fait qu'il peut y avoir quand même aussi des sentiments suscités qui finalement viennent combler d'autres besoins. Puis là, dans le fond, je fais juste noter le fait que parfois on est conditionné à agir d'une certaine façon, alors que c'est, tu sais, si on s'observe réellement, peut-être que c'est même pas de cette façon-là que ça va nous faire sentir.
Ouais.
Puis d'avoir cette auto-empathie.
Mais sortir des programmations, tu sais, ça nous aide à être curieux envers nous-mêmes aussi, tu sais, parce que comme tu dis, mettons, je reprends le retard, là, comme exemple. Tu sais, le retard, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre société, puis il faut qu'on soit vraiment ponctuel, puis on nous a toujours appris ça, puis c'est pas correct de pas être...
C'est non respectueux. C'est
non respectueux, puis tout ça, puis hey, excuse, mais genre, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment souvent en retard, puis c'est pas parce que je respecte pas l'autre, c'est parce que, genre, j'ai une difficulté à gérer mon temps, puis je me dis toujours comme, ah, j'ai le temps de faire ça, dans le fond, avant de partir, mais dans le fond, non, j'avais pas le temps, tu sais. Ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est pas parce que je respecte pas, mais après ça, la pression que je me mets d'arriver à l'heure, tout le long, je suis stressée, tout le long, fait que tu sais, dans le fond, c'est quelque chose que je m'impose à moi-même, ça n'a vraiment rien à voir avec l'autre, mais si je deviens curieuse, puis que je me dis, c'est quoi qu'il y a derrière ça, genre justement, moi, j'ai-tu envie de m'imposer ça à moi-même, ce stress-là tout le temps? Non, tu sais, alors là, ça vient que moi, j'ai envie de travailler mon comportement, mais pas parce que je me fais chicaner par l'autre personne, juste parce que je me rends compte à quel point je suis la première qui est bénéficiaire de cette reprogrammation-là, tu sais, si je...
Oui!
Si je le travaille, fait que ça nous redonne notre pouvoir à nous aussi, tu sais, ça nous permet de le redonner à l'autre aussi.
T'as toujours une belle façon positive de voir aussi les choses, même de l'expliquer à tes enfants, là, je me remets dans certains contextes. Mais en terminant, je veux attirer simplement l'attention sur le fait d'éviter, donc de confondre les faits puis les émotions, t'sais? Parce que c'est ça qui rend la situation souvent plus difficile.
Là-dedans aussi, c'est que, tu sais, c'est un processus, puis il va y avoir au début, ça va être encore intriqué, puis on va s'en rendre compte après que finalement, j'ai réagi sur mon émotion au lieu de répondre sur le fait, tu sais. Fait que cette distance-là qu'on va être capable de s'offrir entre qu'est-ce que l'autre personne nous dit, puis le recul qu'on va prendre, ben tu sais, il va falloir que étirer un petit peu, tu sais, ça va prendre du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, fait que de pas se taper sur la tête non plus, puis d'être bienveillant envers nous-mêmes, puis d'utiliser la CNV pour nous aussi, mais d'être capable de le voir un peu, mais c'est long, là, maîtriser quelque chose, tu sais, je sais pas, là, j'ai entendu quelque chose, là, je pense que c'est comme 1000 fois qu'il faut que t'aies fait quelque chose pour le maîtriser, ou peut-être moins que ça, ou peut-être plus, là, mais en tout cas, whatever, il faut la répétition, c'est ça le point, puis d'être bienveillant envers nous-mêmes, tu sais, parce que ça nous servira pas si on fait juste se dire, ah, oh, j'aurais dû le voir que c'était pas ça le fait, puis nanana, là,
c'est pas... Je suis donc pas bonne, tu sais, pas capable, puis tout ça, on retombe dans...
Chemin, là, neuronaux qui sont vraiment, vraiment acquis, là, depuis longtemps dans notre cerveau, puis il faut se donner l'espace puis l'autorisation d'être un étudiant de ça, puis garder notre curiosité active, puis d'avoir de la compassion, tu sais, envers nous. Pour n'importe quoi qu'on apprend de nouveau, en fait, ou qu'on essaie de reprogrammer, ou n'importe quelle nouvelle habitude qu'on veut.
Oui, d'être indulgent, tu l'as si bien dit, dans des nouvelles façons de procéder, on va y arriver, tu sais, c'est de la pratique, comme tu dis.
Oui, fait que ça, c'est la première fois que vous essayez d'utiliser, que vous arriviez dans une conversation avec l'autre parent, surtout dans des relations où il y a beaucoup de conflits, Mais genre, ça, c'est ton intention, t'arrives là, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais utiliser la CNV, ça va bien aller, puis finalement, tu sors de là, puis ça, c'est pas bien passé, mais c'est correct, la prochaine fois, ça va aller mieux. Puis, tu vas pouvoir, tu sais, c'est petit par petit, ça va, la dynamique relationnelle va pas changer en claquant des doigts, là, tu sais, il faut être conscient de
ça. Oui, puis, tu sais, dans ce que j'allais dire par rapport à l'indulgence, c'est que dans toute formation en communication non-violente, La première affaire qu'on nous distribue, c'est une liste de sentiments, tu sais, d'émotions, puis la liste des besoins aussi, parce que parfois, on n'a pas les mots.
Oui.
Oui. Parfois, on n'a pas tout le vocabulaire, même pour dire avec précision, parce que, tu sais, qu'on pense à une émotion, tu sais, t'as beau dire « Ah, je suis en colère, je suis fâchée », est-ce que tu es contrarié? Est-ce que tu es irrité ou tu es complètement dépassé par les événements? T'sais, même chose aussi pour la joie, là, c'est que tu peux être content, mais tu peux aussi être exalté puis comme sortir de toi. Là, il y a des nuances qui parfois ça vaut la peine d'aller chercher, d'aller voir un petit peu plus. C'est d'avoir des outils pour acquérir de plus en plus ce vocabulaire-là. Parce qu'au niveau des besoins aussi, tu sais, c'est bien beau de dire, ah, j'ai envie de respect, l'harmonie, c'est important pour moi. Mais il y a toutes sortes de besoins, de tout acabit. Là,
oui, ça veut dire quoi pour toi? Parce que, genre, pour moi, l'harmonie, ça peut vouloir dire quelque chose, puis pour toi, ça veut dire quelque chose de complètement différent.
Oui, puis c'est de notre responsabilité de bien l'expliquer aussi. Oui, c'est parce que c'est ça. Puis moi, je pourrais te dire, ah, mais mon besoin d'intégrité est vraiment heurté là en ce moment. Et tu vas dire, ah, de quoi tu me parles, tu sais, comme qu'est-ce que tu veux dire par intégrité dans ce moment précis là. Tu sais, c'est juste d'être au fait que quand on débute. Ça se peut qu'on n'ait pas tout le vocabulaire, mais ça se peut aussi qu'on ait à s'expliquer davantage. Mais c'est plus une méthode pour nous amener à être beaucoup plus doux, envers nous puis envers les autres. Aussi, c'est une méthode qui fait en sorte qu'on évite de confondre les faits puis les émotions. Aussi, croire que les autres sont la cause de nos émotions, non. Tu sais, tu en as parlé tantôt, là, c'est à cause de, là, tu sais, bien, la réalité, c'est que l'autre n'est pas la cause de ton émotion. Comme tu l'as très bien dit, là, il est un facteur déclencheur parce que la cause de ton émotion, c'est les besoins non satisfaits. T'sais. Puis, pour finir aussi, c'est bien de pouvoir voir que le besoin est intrinsèquement lié à soi et non pas le besoin de l'autre personne. Là, c'est vraiment comme notre besoin n'est pas en lien avec l'autre. Tu as parlé des perceptions et tout ça, mais dans le fond, moi, je veux l'amener vraiment comme au niveau des besoins. Là. Ton besoin d'harmonie n'appartient pas à l'autre.
Non, puis ça, c'est vraiment un méga shift là, qu'il faut faire dans notre conscience collective, là, tu sais, d'arrêter de, ben, comme je disais tantôt, de partir de l'intérieur vers l'extérieur au lieu de l'extérieur vers l'intérieur. Mais tu sais, de me dire que l'autre n'est pas là pour répondre à mes besoins. Moi, je suis là pour répondre à mes propres besoins. Cette responsabilité-là, elle appartient pas à personne d'autre qu'à moi. Mais là, tu sais, encore là, je parle pour les adultes, là, parce que comme parents, on est là pour répondre aux besoins de nos enfants. Là, mais ça, c'est différent. Mais de remettre cette responsabilité-là sur l'autre, personne ne peut measure up là-dessus, là, parce qu'on n'est souvent même pas capable de répondre nous-mêmes ou on a de la difficulté à répondre nous-mêmes à nos propres besoins. Comment je peux demander à quelqu'un d'autre puis remettre la responsabilité de ça puis lui demander de faire ça pour moi puis après ça être complètement frustré parce qu'il le fait pas? Comme c'est irréaliste de s'attendre à ça, mais dans notre société, c'est quand même à ça qu'on est... quand même... ça qui est véhiculé dans toute notre vie, là, dans le fond, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Puis de se dire aussi que, comme tu disais, les besoins non répondus, ils parlent de moi. Fait que mon besoin à moi, là, d'appartenance, mettons, ou d'être vu, ou d'être entendu, ou de me respecter, ou de peu importe, ça part de moi. C'est à moi de m'offrir ça, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que je trouve que 99 % du temps, ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que, tu sais, même quand ça fait des années, mettons, que je suis dans une relation qui ne me convient pas, je suis vraiment frustrée après l'autre. Mais en ayant pris assez de recul, je suis vraiment frustrée, je suis vraiment irritée, j'ai beaucoup de ressentiments, tout ça. En ayant pris assez de recul, je vais être capable de voir que, dans le fond, c'est pas après l'autre personne que je suis fâchée, c'est après moi. Je suis fâchée de moi m'être abandonnée pendant tout ce temps-là, puis de moi de ne pas m'être entendue, puis de moi de ne pas avoir respecté mes besoins. Ça n'a rien à voir avec l'autre, dans le fond, tu sais. Ça devient vraiment intéressant de pousser notre réflexion puis de voir ça de cette façon-là. Puis je trouve que ça nous redonne tellement de pouvoir sur notre vie. Oui. C'est comme, tu sais, au début, ça peut être écrasant de responsabilité ou de guilt, de culpabilité de ne pas l'avoir vu pendant si longtemps, mais en fait, on ne le savait juste pas, tu sais. Fait que comme il faut aussi avoir de la compassion envers nous pour ça, tu sais, mais ouais, je pense que la CNV, ça peut être un bel outil, tu sais, pour nous amener sur cette piste-là, autant dans nos discussions avec l'autre, dans la relation de coparentalité qu'on a envie de bâtir, dans la relation avec nos enfants aussi, d'utiliser cet outil-là dans nos discussions avec nos enfants.
Ben, je suis contente que tu en parles parce que ça pourra faire l'objet d'un autre épisode ou d'une autre discussion, mais de ne pas exclure les enfants de ça, de ce privilège-là. Puis en fait, c'est que les précurseurs...
C'est un beau cadeau à leur offrir, de leur apprendre à communiquer de cette façon-là.
Tout à fait. Puis dans le fond, il y a des écoles qui ont... pas ici, en tout cas peut-être... ça a été vu plus souvent là, à l'extérieur, à l'étranger.
Pas sur le système scolaire québécois.
Non, c'est ça. Mais c'est parce que j'imagine qu'il y a quand même certaines écoles qui sont en contact avec ça. Puis, tu sais, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui se passe de cette nature-là au Québec. Mais on peut voyager un petit peu plus loin et voir que ça a été très, très, très bien reçu. En fait, les enfants sont... très facilement, ils accrochent très facilement, ils sont aptes à appliquer ce modèle-là beaucoup plus aisément. Puis, il y a une petite anecdote drôle, là, c'est qu'ils ont fait l'expérience il y a quelques années dans une école de la Guinée, si je ne me trompe pas, et les enfants étaient rendus tellement bons qu'ils surpassaient, tu sais, les maîtres. C'est pour ça que ça a été difficile à compléter le programme, parce que les professeurs n'étaient pas capables d'être aussi bons que les enfants.
C'est drôle, mais ça fait tellement de sens dans ma tête quand tu dis ça, parce que les enfants sont très, selon leur âge puis le stade de développement du cerveau auquel ils sont rendus, mais les enfants sont très égocentriques. Leur monde est tourné vers eux puis vers l'intérieur d'eux. Donc, forcément, eux, ils vont aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux avant d'aller pointer le doigt vers l'extérieur.
C'est ça. C'est plus accessible. Ça
fait complètement du sens pour moi que ce que tu dis présentement. Ouais.
Fait que ça sera pour une prochaine. Prochain épisode, on pourra en parler plus. Si vous avez des questions, c'est sûr qu'on aime toujours pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des suggestions aussi, on peut pousser les discussions davantage. Là, on s'en tient à voir parfois les notions en surface là, pour vous mettre en contact avec ça. Mais c'est sûr que ce qui nous intéresse, c'est qu'un plus on prend conscience de ça, bien plus on est de gens à pouvoir mieux étoffer et prendre soin de nos relations.
Oui, vraiment. Fait que si, comme Hélène a dit, s'il y a des choses que vous aimeriez approfondir, vous pouvez nous envoyer des messages en DM sur Instagram ou par courriel. Puis dans les notes du podcast, vous allez retrouver aussi les liens pour les conversations découvertes si vous avez envie de discuter avec Mylène pour la médiation, pour voir si vous êtes rendu là, si c'est la bonne avenue pour vous, si Mylène est la bonne médiatrice pour vous. Puis si vous avez envie de vous faire accompagner au niveau émotionnel, ben vous allez aussi retrouver le lien pour la conversation découverte avec moi pour voir s'il y a une connexion de part et d'autre et si je suis la bonne personne pour vous. Alors là-dessus, on veut être respectueuse de votre temps. Alors on vous dit merci beaucoup puis à la semaine prochaine.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, on t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast.
Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, partage-lui l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit. On te souhaite une merveilleuse journée et on te dit à la semaine prochaine.